Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu donc dans le livre des Rois, 1 Rois, chapitre 19, à partir du verset 1. Donc c'est un passage du livre des Rois qui raconte la fuite d'Élie vers le mont Horeb. 1 Rois, chapitre 19, à partir du verset 1er. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et il se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit: va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Amen. Voilà, je voudrais parler ce soir, frères et sœurs, sur l'histoire d'Élie, qui a rencontré Dieu au mont Horeb, et des circonstances qui l'ont amené là, et ce qui s'est passé entre lui et Dieu à cette occasion, avec une question centrale: que fais-tu ici? Élie, c'est un prophète de Dieu, qui a vécu au royaume d'Israël, qui a été prophète en Israël, 900 ans environ avant la naissance de Jésus. Et toute sa vie, jusqu'au moment qu'on évoque ici, c'est-à-dire sa fuite vers le mont Horeb, il a été un prophète de Dieu en Israël, je dirais seul contre tous. Et c'est un prophète qui a toujours obéi. Il a connu diverses épreuves, il a connu des difficultés, puisque le peuple avait tourné le dos à l'Éternel. Il s'était orienté vers tout un tas de divinités, sous le règne du roi Acab. Il est dit que le roi Acab était l'un des rois qui a fait les pires choses pour irriter l'Éternel. Donc c'était des choses volontaires que le royaume faisait sous l'impulsion de son roi. Et la reine Jézabel, qui était donc l'épouse du roi Acab, elle aussi était une personne qui encourageait les prophètes à louer les divinités. Donc il y avait en ce temps-là dans le royaume d'Israël beaucoup de prophètes qui prêchaient donc pour le dieu Baal et également pour Astarté. Et donc le peuple suivait ces prophètes-là et avait abandonné l'Éternel, avait abandonné l'alliance. Et donc dans ce contexte, le prophète Élie, lui, était resté debout pour l'Éternel, et il avait pris position. Et en ce temps-là, l'Éternel a demandé à Élie d'aller vers le roi Akab et de prononcer une parole envers le peuple, envers le royaume d'Israël, en disant le royaume sera frappé de sécheresse. Et effectivement, le royaume a été frappé d'une sécheresse qui a duré plus de 3 ans. Et on voit dans cette époque de la vie d'Élie qu'en fait, il a un caractère obéissant envers Dieu. Puisqu'il est dit dans la parole, dans le livre des rois, il est dit que Dieu va demander à Élie de se cacher à ce moment-là. Et Élie va obéir, il va quitter Israël et il va partir. Il va même vivre à ce moment-là dans sa fuite, dans son exil, il va vivre le surnaturel de Dieu puisqu'il va être nourri par les corbeaux. Il va aussi expérimenter le miracle de Dieu lorsqu'il sera hébergé chez la veuve de Sarepta, avec l'épisode de l'huile et de la farine. Et puis il va vivre également une expérience magnifique, c'est-à-dire qu'il va ressusciter le fils de la veuve de Sarepta. D'ailleurs, il est dit dans 1 Roi, chapitre 17, verset 21-22, que l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et fut rendue à la vie. Et donc, on voit bien au travers de cette parole qu'il y avait une relation, je dirais, intime entre Dieu et Élie, puisque lorsque Dieu demande à Élie de partir, eh bien Élie part, il écoute, et en retour, quand Élie prie et demande à Dieu d'agir pour l'enfant de la veuve, il est écrit que l'Éternel écouta la voix d'Élie. Donc Élie écoutait l'Éternel, et l'Éternel écoutait Élie. Il y avait là une relation très forte entre les deux. Donc Élie s'en va, environ 3 ans, donc loin du royaume d'Israël, et puis Dieu va lui demander de retourner vers le roi. Et là, il faut savoir que le roi Akab, à ce moment-là, cherchait Élie pendant tout ce temps-là. Il cherchait Élie. Et s'il l'avait trouvé, très certainement qu'il aurait voulu le punir, voire le tuer par rapport à cette sécheresse qui était arrivée, cette parole qui s'était accomplie. Et donc Élie va retourner vers le roi. Donc à ce moment-là, il est fidèle à Dieu, parce que Dieu lui demande quand même de revenir vers le danger, quelque part, que représente le roi Akab. Et Élie, rempli de courage et fidèle à Dieu, Élie va revenir vers le roi Akab. Il va se confronter à Akab à ce moment-là, et donc il va se produire un événement qui est, je pense, à cette époque-là, a dû être retentissant en Israël, c'est qu'Élie va confronter les prophètes de Baal. Les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté. Et en fait, Élie, à ce moment-là, veut ramener le peuple d'Israël, veut le ramener à Dieu. Et donc, il va défier ces fameux prophètes au cours d'une rencontre sur le mont Carmel, en haut du mont Carmel. Et donc, là, à ce moment-là, il va y avoir un épisode retentissant, c'est-à-dire qu'il va défier ces prophètes en leur disant, voilà, faites un tas de bois, faites un bûcher, je vais faire de même, coupez un taureau, déposez-le sur le tas de bois, je ferai de même, invoquez vos divinités, demandez-leur le feu sur le tas de bois, je ferai de même. Et à ce moment-là, donc, le peuple est rassemblé, donc le peuple va être témoin de la puissance de Dieu. Et donc, bien évidemment, donc, les prophètes de Baal vont invoquer leur divinité, il ne va rien se passer. En fait, c'est Baal et l'Éternel, c'est Dieu contre le diable. Et on sait tous que le diable, en fait, abandonne ceux qui croient en lui ou ceux qui se tournent vers lui. Et Dieu donc va répondre à Élie, mais Satan va tourner le dos aux prophètes de Baal qui vont l'invoquer et il ne va rien se produire. En revanche, dans cette période de sécheresse, Élie va invoquer l'Éternel, lui demander le feu sur son bûcher. Peut-être que le peuple lui attendait la pluie, mais Élie, lui, va demander le feu. La pluie, c'est ce qui amène derrière l'abondance, voilà, la végétation qui pousse, etc. Le feu, c'est ce qui purifie. Et en fait, Élie va demander le feu de Dieu qui va, afin de purifier ce peuple, avant de lui apporter l'abondance par la pluie. Et donc, le feu va descendre, le bûcher va brûler, le peuple entier va pouvoir reconnaître la puissance de l'Éternel. Élie va tuer les prophètes et puis la pluie va revenir. Donc c'est un épisode important dans la vie d'Élie. On a vu qu'il y a une relation étroite avec l'Éternel. Ils s'écoutent mutuellement. Élie est rempli de foi, il est fidèle à Dieu et il est témoin d'un événement qui, définitivement, je pense, a mis dans son cœur le fait que l'Éternel ne l'abandonne pas. Il fallait être audacieux pour défier les prophètes de Baal dans ces circonstances. Il était tout seul, peut-être contre je ne sais pas combien de milliers de personnes, mais il a été fidèle à Dieu. Il a été animé d'une foi à toute épreuve. Et donc, Dieu s'est manifesté, il a secouru en ce temps-là. Et ce qui va se produire après, et donc le passage que nous avons vu, et donc, en tout cas, m'a interpellé, et donc je voulais partager avec vous, c'est-à-dire que consécutivement à cet événement, la reine Jézabel va menacer de mort Élie. Et à ce moment-là, quelle est la réaction d'Élie ? On a vu qu'Élie a écouté Dieu toute sa vie, mais à ce moment-là, quand la reine Jézabel le menace, Élie, il n'est pas écrit qu'Élie écoute la voix de Dieu, il n'est pas écrit que Dieu lui parle, il n'est pas écrit que Élie attendit que Dieu lui parle pour prendre une décision. Non, Élie fait le choix de partir pour sauver sa vie, le caractère humain de sa vie. Et donc il est à un moment de sa vie où après avoir connu l'abondance, on l'a chanté, il a connu l'abondance, et Dieu était là pour lui dans l'abondance, il va connaître le désert. Et on va voir que Dieu sera là aussi pour lui dans le désert. Donc il fuit. Il est dit donc que Élie, accompagné de son serviteur, va descendre vers Beersheba. Donc le mont Carmel, c'est plutôt dans le nord du territoire d'Israël. Il va descendre à Beersheba, qui est dans le territoire de Juda, donc plutôt au sud. Et à ce moment-là, il est dit qu'il va laisser son serviteur à Beersheba. Et qu'ensuite, il va marcher pour lui un jour de marche dans le désert. Donc il était déjà dans une intention, donc il fuyait, il était dans la peur, il était dans la panique, il ne savait que faire. La seule chose à laquelle il a pensé pour sauver sa vie, ça a été de fuir, d'amener avec lui son serviteur, qu'il a très certainement voulu épargner. Il l'a laissé à Beersheba, et puis il est parti seul dans le désert. Et là va commencer donc le voyage d'Élie vers le mont Horeb. Et sur ce voyage, donc, je voudrais partager avec vous trois promesses de Dieu. La première promesse, c'est que Dieu est notre secours dans la détresse. On l'a chanté ce soir, quand on crie à l'Éternel, que nous sommes dans le désert, que nous sommes dans la difficulté, que nous sommes dans l'épreuve, l'Éternel nous entend et il nous secourt. Donc Élie fait un jour de marche en direction du désert. Et la première étape de son voyage, c'est qu'il va trouver un genêt. Alors un genêt, j'ai découvert ça en préparant ce message, un genêt c'est un arbuste, on en trouve dans le désert. Alors ça sert à nourrir les animaux dans le désert, les chameaux, donc on prend les racines, on nourrit les animaux avec le genêt. Mais d'un point de vue médicinal, le genêt c'est aussi un arbre qui est utilisé pour ses vertus en médecine. Notamment, il a deux vertus principales. La première, c'est qu'il soigne le cœur. Donc c'est une vertu apaisante pour le rythme cardiaque. Et puis c'était un remède que l'on utilisait également contre les morsures de serpents ou les piqûres de scorpions. Rien n'est anodin dans la parole de Dieu. Et le fait qu'Élie vienne se réfugier sous un genêt dans le désert, c'est aussi un signe que Dieu avait préparé sa provision pour Élie, comme il le prépare pour nous. Parce que le Seigneur est bon, qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. Amen. Donc, Élie va se réfugier sous ce genêt. Il est dit qu'il va se coucher, en fait. Il est, si on voulait utiliser des termes modernes, je dirais qu'il est en dépression, mais il est dans une forme de dépression grave, puisque concrètement, il demande la mort dans le verset 3, 1 Roi 19, verset 3. Il dit « Prends mon âme ». Il dit « Prends mon âme ». Et donc, dans tout ce passage sur la présence d'Élie sous le genêt, ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, Dieu est silencieux. On l'a chanté aussi ce soir. Dieu parle dans le silence. Dieu nous parle dans le silence. Dieu ne répond pas à Élie. Élie demande la mort. Dieu ne répond pas. Dieu ne lui donne pas la mort. Dieu ne lui donne pas non plus la direction. Dieu ne lui dit pas non plus je vois bien, Élie, que ça ne va pas. Tu vis une période difficile, mais Élie, lève-toi et va à cet endroit parce que j'ai besoin de toi. Non, ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui est dit, c'est que Dieu va lui envoyer un ange. Et cet ange va toucher Élie. Il va le nourrir. Il va lui donner du repos. Il va lui donner du réconfort. Et Élie va reprendre des forces pour pouvoir ensuite poursuivre son voyage. Mais avant d'en arriver là, il se produit un événement qui nous permet de comprendre aussi ce que traverse Élie à ce moment-là et dans quel état d'esprit il est. Il est très certainement en plein doute, puisque l'ange va s'approcher de lui une première fois, au verset 5 et 6, il va lui dire « Lève-toi, mange ». Il est dit que Élie regarda à son chevet, il mangea et but, puis se recoucha. Donc il obéit à une petite partie de ce que lui demande l'ange. Il mange, il boit et il se recouche. Il ne se lève pas. L'ange lui demande de se lever et de manger. Élie ne se lève pas. Il se recouche, donc il se rendort. L'ange vient une deuxième fois. Au verset 7 et 8, il dit de nouveau à Élie, lève-toi, mange. Et à ce moment-là, Élie se lève, mange et boit. Ce qui était important, puisque la conséquence d'avoir obéi, c'est que désormais, il a la force pour pouvoir continuer son voyage. Et donc, il est dit dans le psaume 46, au verset 2, que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est ce qui se passe sous le jeûne. Dieu a compris que Élie était à bout de force, physiquement et spirituellement. Et donc, Dieu... Dans cette détresse, Dieu va être un secours. Mais il va être un secours. Il ne va pas être un donneur d'ordre. Il va pas être. Il comprend en fait la souffrance d'Élie. Il comprend dans quel état il est. Il ne lui demande pas d'accomplir une chose pour laquelle, à cet instant-là, Élie serait incapable de réaliser. Il va d'abord lui redonner des forces. Et Dieu nous restaure. C'est la première promesse que je voudrais mettre en avant sur ce passage. C'est que Dieu est notre restaurateur. Quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos détresses, ici on est face à un homme qui est au bout de sa vie. En fait, il veut juste mourir, lui. Pourquoi est-ce qu'il a laissé son serviteur à Beersheba pour partir un jour de marche dans le désert? C'est parce qu'il avait bien l'intention d'y rester, de mourir, sinon il aurait pris son serviteur avec lui. Non, lui voulait mourir, il était parti pour mourir. Et Dieu, donc, qu'il a vu, Dieu qu'il a vu dans le désert, qu'il a vu seul, Dieu vient le secourir. Le deuxième enseignement, c'est que Dieu nous aime, qu'il fait preuve envers nous de patience, il fait preuve envers nous de bonté, parce qu'il nous aime. Après l'étape du jeûne, Élie a reçu donc une nourriture surnaturel, je dirais, qui va lui permettre de faire un voyage de 40 jours et 40 nuits dans le désert. Ce qui, humainement, n'est pas possible. On ne peut pas, pendant 40 jours et 40 nuits, marcher dans le désert sans boire, sans manger. Alors, j'ai regardé, de Beersheba au mont Horeb, il y a 300 km. 300 km dans le désert, mais ce n'est pas non plus un chemin plat et facile à marcher. Non, c'est un chemin pentu, c'est une région... Voilà, montagneuse, et donc Élie va marcher 40 jours, 40 nuits, par la grâce de Dieu, nourri par ces aliments surnaturels que l'ange lui a portés. Et donc 40 jours, 40 nuits, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait beaucoup de temps. Ça fait plus d'un mois de marche, c'est-à-dire que pendant tout ce temps où il marche tout seul, je pense que dans sa tête, il doit se passer beaucoup de choses. Voilà, il a connu des expériences incroyables, par la main de Dieu, il a apporté des bénédictions, il a réalisé des miracles, il a ressuscité un enfant. Certes, le peuple a tourné le dos à Dieu, mais il a fait la démonstration devant le peuple que l'Éternel est vivant. Et puis, par la simple menace d'une femme, il est parti, il a pris peur, et donc aujourd'hui, il est en détresse. Dieu l'a secouru, Et donc, il part pour 40 jours, 40 nuits. Il n'y a pas de direction. Quand Élie reprend la route, il n'est pas écrit que l'Éternel lui demande d'aller vers le mont Horeb. Il marche dans le désert 40 jours, 40 nuits. Donc, je pense qu'il a le temps de réfléchir. Très certainement, Élie connaît les Écritures et il sait ce qu'est le mont Horeb. Le mont Horeb, c'est la montagne de Dieu dans la Bible. C'est là que l'Éternel parlait à Moïse. C'est là que le buisson ardent est apparu à Moïse. C'est là que Moïse venait à la rencontre de Dieu pour quelque part recevoir les instructions de Dieu et ensuite les porter vers le peuple. C'est là aussi que Moïse venait demander pardon à Dieu pour les péchés du peuple. Et donc Élie s'approche du mont Horeb. Très certainement que quand il s'en approche à 50, 40, 30 kilomètres, il voit le mont Horeb se dessiner et très certainement qu'à ce moment-là, il comprend la destination. Mais on va voir qu'en fait, quand il va arriver au mont Horeb, il est toujours dans le même état d'esprit. Il est aigri, son cœur est rempli d'amertume et de rancœur quelque part envers le peuple d'Israël. La première chose que fait Élie quand il arrive sur le mont Horeb, c'est qu'il va rentrer dans une caverne, il va rentrer dans une grotte, dans l'obscurité. Il va se coucher et donc il va dormir. Voilà. Je ne sais pas vous, mais si je sais que je vais aller rencontrer Dieu, je me prépare à sa rencontre, je me réjouis. Et très certainement, comme nous avons commencé à le faire ce soir, eh bien nous allons le louer, nous allons lui rendre grâce, parce que nous savons ce qu'il est pour nous, ce qu'il représente pour nous, ce qu'il fait pour nous. Mais Élie est vraiment dans une détresse profonde parce que ce n'est pas ce qu'il va faire quand il va arriver au mont Horeb. Il se réfugie dans une grotte et en fait il va dormir. Il ne va pas se mettre à genoux, prier, invoquer l'Éternel. Non, il va rentrer dans la grotte et il va dormir. Et donc la parole de Dieu lui est adressée à ce moment-là. Et c'est Dieu qui se manifeste le premier. Si ce n'est pas Élie qui s'est manifesté, c'est Dieu qui se manifeste à lui. C'est pour ça que cette promesse que Dieu nous aime, qu'il fait patience et de bonté, qu'il fait preuve de patience et de bonté envers nous, c'est une promesse essentielle dans nos vies. Nous avons la certitude que dès lors que nous lui faisons confiance, il viendra vers nous au moment opportun. Le moment opportun, c'est le moment de Dieu. Ce n'est pas forcément le moment que nous attendons, nous, celui dans lequel on voudrait que l'intervention de Dieu arrive, mais c'est le moment opportun pour Dieu. Et donc, l'Éternel va se manifester en posant cette question à Élie. Que fais-tu ici? C'est une question un peu à double sens, parce que l'Éternel sait très certainement ce que Élie fait ici. Et donc, Élie, qui a obéi toute sa vie à Dieu, qui l'a servi, a aujourd'hui un cœur, on l'a dit, complètement rongé par le ressentiment vis-à-vis du peuple d'Israël. Dieu le questionne et la réponse, à ce moment-là, la réponse d'Élie va arriver. Et en fait, dans sa réponse, Élie dit à l'Éternel, mais regarde, j'ai beaucoup fait pour le peuple s'est détourné de toi, je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. Donc à la fois, il condamne le comportement du peuple d'Israël et quelque part, il se met un petit peu en avant en disant « Moi seul, je suis resté. » Et en fait, on parlait tout à l'heure de Moïse et on a vu que la posture de Moïse était complètement différente. En fait, quand Moïse venait à la rencontre de l'Éternel sur le mont Horeb, c'était pour demander pardon pour les péchés du peuple. Et en retour, il recevait les instructions de Dieu et retournait vers le peuple pour les lui donner. Donc, quand l'Éternel dit à Élie « Que fais-tu ici ?», il le sait très bien, que le peuple a abandonné l'alliance, qu'il s'est tourné vers des prophètes. Et quelque part, est-ce que ce n'était pas à Élie de rester? On a vu qu'Élie a fait le choix de partir. Et peut-être que si on en était encore là, dans ces circonstances, peut-être que c'était parce qu'Élie, au lieu de rester et de combattre la reine Jézabel, en fait, Élie a fait le choix de partir. Donc Dieu pose la question une première fois, on a vu la réponse d'Élie, il va poser la question une deuxième fois, il va obtenir la même réponse mot pour mot. Élie donne la même réponse mot pour mot, c'est exactement la même réponse. Et à ce moment-là, on voit bien que seule la grâce de Dieu peut rétablir complètement Élie. puisque même lorsque Dieu se manifeste auprès de lui une deuxième fois, il reste enfermé, il est dans sa caverne, dans sa grotte, il est dans l'obscurité, il est complètement enfermé dans ses raisonnements, et donc il n'a quelque part plus de clairvoyance dans ses jugements. Donc Dieu le questionne une deuxième fois, on a la même réponse, et cette deuxième question en fait nous montre aussi que Dieu quelque part veut chercher à rétablir complètement ce prophète qui est perdu, de façon à ce qu'il soit pleinement rétabli et qu'il puisse le servir de nouveau. C'est l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime, il fait preuve de patience et de bonté envers nous. Il nous aime d'un amour inconditionnel et invariable, c'est-à-dire que ça ne change pas, l'amour de Dieu ne change pas. Il nous a aimé le premier, on l'a chanté aussi, comme il vient ici, lui en premier, vers Élie, eh bien, il nous a aimés en premier. Et lorsque nous sommes dans la détresse, là aussi, Dieu, n'en doutons pas, viendra nous secourir. La troisième promesse, c'est que Dieu bénit ses enfants. Et je dirais qu'il nous bénit d'autant plus lorsque nous lui obéissons. On a vu que dans le parcours d'Élie, il y a des événements qui ont produit des conséquences fâcheuses. Premièrement, il n'écoute pas la voix de Dieu et il fuit lorsque Jézabel le menace. Deuxièmement, l'ange vient lui porter sous le genêt de la nourriture. La première fois, il n'obéit pas et donc il faut que l'ange vienne une deuxième fois pour qu'enfin il comprenne et obéisse. Et à ce moment-là, il va pouvoir être relevé et partir vers le voyage. Et de nouveau, dans la grotte, il va falloir que Dieu lui pose deux fois la question. Et il y a donc un moment clé dans cet épisode, au chapitre 19, verset 11. Il y a un moment clé lorsque Dieu commande à Élie et lui dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel ». On a vu que Dieu a rétabli Élie. Maintenant, Dieu sait qu'Élie est prêt. Et donc, il va lui demander de sortir et de se tenir devant lui sur la montagne. Et là, Élie obéit à Dieu. Et donc, il va se passer un changement majeur, c'est-à-dire que Dieu est présent, Dieu va parler à Élie, il va y avoir un vent, il va y avoir un tremblement de terre, il va y avoir un feu, et il est dit que Dieu parle à ce moment-là à Élie par un murmure doux et léger. Dans la version hébraïque, il est écrit « une voix de fin de silence ». Dieu parle dans le silence, on l'a dit tout à l'heure, il est silencieux quand Élie est sous le genêt. Il est silencieux là aussi, lorsqu'Élie est sur le mont Horeb. Mais il y a une différence entre la posture d'Élie qui était dans le noir, dans la grotte, et qui n'écoutait pas, il a fallu que Dieu lui pose deux fois la question, et celle qu'il a maintenant, c'est-à-dire qu'il est debout. Il était couché, il s'est levé, il est debout. Donc il a changé d'attitude envers Dieu. Il est devant Dieu, il a obéi, et il est capable d'entendre Dieu dans le silence. Dieu nous parle parfois dans des façons qui sont surprenantes. Sur le mont Horeb, il a parlé à Moïse au travers du buisson ardent qui ne se consume pas. Humainement parlant, c'est pas envisageable d'avoir un buisson ardent qui ne se consume pas. Et là, présent dans le silence, Dieu va parler à Élie. Et la conséquence, en fait, de l'obéissance d'Élie qui est retrouvée et de sa connexion avec Dieu qui est rétablie, c'est qu'il va recevoir une nouvelle direction pour son ministère. Dieu lui demande d'aller oindre Jéhu, d'aller oindre Élisée et de repartir dans le désert, faire le chemin inverse. Donc, Élie est de nouveau rétabli, il a retrouvé ses forces, il a retrouvé la confiance en Dieu, il a été raffermi. Il a été relevé et désormais il est prêt de nouveau à servir Dieu. C'est vrai pour nous aussi, cette promesse, que quand nous venons dans la maison de Dieu, déjà il faut s'attendre à ce qu'il soit présent. Il est présent au milieu de nous. Jésus est présent au milieu de nous. C'est vrai que nous traversons parfois des périodes difficiles. On rencontre des épreuves, on rencontre des difficultés de tous ordres. Mais ne restons pas enfermés dans nos soucis, justement dans nos difficultés, comme Élie dans la caverne. Écoutons la voix de Dieu, cherchons à entendre sa voix, cherchons à l'écouter et nous avons l'assurance que nous repartirons bénis. cette question hein, que Dieu pose à Élie, que fais-tu ici? C'est une question qu'on peut se poser, nous aussi. Que faisons-nous ici? Que faisons-nous ce soir dans la maison de Dieu? Quels sont les motifs spirituels qui nous ont poussés à venir ici? Il y en a beaucoup. On est venu prier, on est venu intercéder pour nos frères et sœurs. On est venu louer, adorer Dieu. On l'a fait, on est venu servir Dieu. On est venu chercher la communion fraternelle. D'autres motifs, il y en a de nombreux. Ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la raison pour laquelle nous sommes venus ce soir, on trouvera un secours, on trouvera un réconfort, on trouvera un rétablissement. On portera des sujets à notre Seigneur Jésus, il va les écouter. Il est assis à la droite du Père, alors que nous intercédons ici sur terre, lui il fait de même auprès du Père. Et nous avons l'assurance qu'en lui demandant d'agir dans nos vies, d'agir dans la vie de nos frères et sœurs, nous avons l'assurance, parce qu'il est vivant, nous avons l'assurance qu'il va agir. Alors bien-aimés, ce soir, rendons grâce à notre Seigneur. Il connaît tout de nous. Il est encore parmi nous ce soir. Quel que soit notre état d'esprit, notre situation, la saison que l'on traverse, les épreuves que l'on rencontre, remettons-lui nos besoins et gardons confiance en lui. Amen. Seigneur, oui, nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Te rendons grâce pour ces moments partagés ensemble dans ta maison. Te rendons grâce pour ta présence parmi nous, parce que tu es présent dans ce lieu, Seigneur. Oui, tu nous connais et tu sais pourquoi nous sommes ici. Tu connais nos pensées les plus secrètes, Seigneur, et tu sais ce qui nous a guidés à venir ce soir dans ta maison. Tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs. Tu connais nos états d'esprit, tu connais nos besoins. Alors nous te les remettons, Seigneur. Tu connais nos attentes. Tu connais tout de nous. Alors ce soir, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Nous approcher de toi avec reconnaissance. Te présenter nos prières, notre intercession. Nous savons que tu vas nous écouter comme tu as écouté Élie dans la détresse, lorsqu'il était sous le genêt. Mais nous savons que tu veux aussi que nous t'écoutions, comme Élie l'a fait sur le mont Horeb, après que tu lui aies répété plusieurs fois de t'écouter. Alors nous approchons de toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cet exemple d'Élie qui témoigne de ton amour pour tes enfants. Tu es le Dieu qui voit là où nous sommes. Tu es le Dieu qui sait tout de nous. Tu nous connais mieux que personne. Tu nous connais mieux parce que c'est toi qui nous as créés par ton souffle de vie. Alors nous remettons notre vie entre tes mains, Seigneur, avec confiance, avec l'assurance que, oui, tu vas entendre nos besoins, tu vas entendre nos requêtes, tu vas entendre notre intercession, Seigneur. Et nous avons l'assurance que tu es parmi nous, que tu nous écoutes. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces moments passés ensemble. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.